France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Changement de décor, Sophie Pérez. Joël Gaillot recevait en 2011 Sophie Pérez et Xavier Boussiron. Ils s'apprêtaient à reprendre au Théâtre du Rond-Point leur spectacle « Oncle Gourdin ». Sophie Pérez et Xavier Boussiron, ou les méchants petits lutins du Théâtre français qui ravagent tout sur leur passage. Avec eux, nous découvrons l'histoire d'une troupe qui aime le théâtre à la folie. Pendant une demi-heure, Joël Gaillot tire le portrait de Sophie Pérez, metteur en scène et scénographe, et de Xavier Boussiron, artiste et musicien. Nous observons ce qui fonde le travail inclassable de leur compagnie intitulée ZEREP, soit l'anagramme exact du nom de la fondatrice, Sophie Pérez. Pour commenter la photo, Jean-Pierre Leonardini, critique à l'Humanité, et Serge Laurent, directeur de Beaubourg, fidèle programmateur de la compagnie.
Le silence des théâtres, c'est comme un lac. Le silence de l'amour, c'est comme un lac aussi.
Changement de décor. C'est l'heure des changements de décor avec un nouveau magazine d'une demi-heure consacré au théâtre. On vous propose chaque dimanche soir de découvrir un artiste et son univers. Il vient seul ou avec sa bande, il vient avec ses amis ou avec ses ennemis, comme il veut. C'est lui qui choisit. On lui donne carte blanche, il est metteur en scène, auteur, acteur, scénographe, dramaturge. Il habite le théâtre. Il vous attend. Il est là avec nous et on a 30 minutes montre en main pour vous convaincre ou pas d'aller voir son spectacle. Dans 30 minutes, vous saurez tout, ou presque. Changement de décor avec ce soir Sophie Pérez et ses boys.
Je vais compter jusqu'à 3, les premiers rangs. Vous allez vous réveiller tout doucement et vous aurez le sentiment d'être au théâtre. Alors attention, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3.
Ce soir, on reçoit les Pérez Boussiron, on reçoit les Trublions du théâtre français qui ravagent tout sur leur passage. Des artistes qui malmènent le théâtre parce que le théâtre, ils l'aiment tellement qu'il peut aussi les rendre fous. Cette émission leur est consacrée. Elle est consacrée à Sophie Pérez, metteur en scène et scénographe, à Xavier Boussiron, artiste musicien, à leurs acteurs. Et au travail décidément inclassable de cette compagnie intitulée ZEREP, ZEREP soit l'anagramme exact du nom de sa fondatrice, Pérez, Sophie Pérez. Avec nous aussi pour commenter la photo, Jean-Pierre Leonardini, critique à l'Humanité et spectateur, lui aussi, fou de théâtre, et Serge Laurent, responsable spectacle et musique de la programmation du Centre Georges Pompidou. Alors c'est à Avignon qu'on a découvert Oncle Gourdin, qui passe actuellement sur les scènes parisiennes et notamment au Théâtre du Rond-Point, qui va ensuite tourner. Avignon, donc, retour sur l'édition numéro 65 du festival. C'était en juillet, c'était une première pour nous, les spectateurs. Et c'était aussi une première pour vous, Sophie Pérez et Xavier Boussiron, puisqu'on vous a attendu longtemps avant que vous arriviez à Avignon. Vous boudiez le festival ?
Non, mais comme je dis tout le temps, on part tout le temps en vacances au mois de juillet. Et on n'avait pas du tout réalisé que tous les professionnels de la profession se retrouvaient là. Donc voilà, donc finalement ça s'est fait et c'est très bien comme ça.
C'est la vraie réponse, ça, à apporter à la
non,
question ?
Non, je pense que la réponse, la vraie, c'est que c'est un travail qui dérange. Voilà. Et donc, à partir de là... Tout ce qui correspond à une chose un peu institutionnelle et un peu établie, voilà, on peut pas faire ces propositions-là et puis y être de A à Z. Donc voilà, on arrive 10 ans après.
10 ans après la fondation de la compagnie ?
Ouais. Mmh. Ça s'est bien passé du coup. Moi, je suis très patiente pour ça. Je préfère qu'on m'appelle qu'appeler les gens.
Mais vous attendiez ou pas à Avignon ?
Pas du tout.
Non ? Vous auriez pu vous en passer ?
Oui.
Relève-toi, ton frère ! Relève-toi, tu vas te prendre la gueule ! Relève-toi, tu vas te prendre la gueule ! Relève-toi ! Et mets-toi ! Mets-toi, voilà, regarde là ! Il tourne là ! Je peux le faire tourner toute la nuit ! Il tourne ! Il tourne ! Je le fais tourner !
Comme je pense qu'il y a une affaire de théâtre très classique aussi dans ce qu'on fabrique, et que en fait il y a un vrai amour du théâtre, il y a des vrais acteurs, des vraies gamelles, des vrais décors et des choses qui ont à voir avec le problème de l'émotion, du jeu, de la forme, et que quelqu'un qui aime le théâtre, je pense qu'il s'y retrouve complètement. Après il y en a que ça dérange parce que l'agencement est un peu alors, je sais pas, surréaliste, pamphlétaire, mais le jeu de massacre, il est un peu fondamental. Et on est obligé de se positionner par rapport aux choses. Et c'est en faisant de l'art qu'on peut le faire. Donc,
vous faites de l'art.
Donc, on s'en passe pas trop.
Alors, c'est à Avignon que vous, Jean-Pierre Leonardini, pour la toute première fois, pour reprendre le titre d'une chanson célèbre, vous avez vu et découvert le travail de cette compagnie, la compagnie Zérep. On était assis côte à côte pendant le festival devant Oncle Gourdin et vous rigoliez plutôt franchement. Pourquoi est-ce que vous avez rigolé
Mais d'abord parce que j'ai pris un énorme plaisir à ça. Aimant le théâtre, moi aussi, de façon résolue, absolue, presque exclusive, enfin, je peux tout à fait admettre qu'on ne moque bien que ce qu'on aime très fort. Enfin, et j'ai aimé ce travail-là, qui est un travail de parodie. Et la parodie, pour les Grecs, c'est littéralement le chant à côté. Enfin, et c'est vraiment à côté, et c'est en plein dedans. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et puis en plus, je trouve très excessif. Et me semble-t-il, dans ce registre-là, de la mise en boîte ou du jeu de massacre, il faut y aller carrément, quoi. Il faut envoyer les canons, quoi. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il n'y a pas là de demi-mesure. Et en même temps, on sent une grande préméditation crapuleuse dans tout ça. Enfin, il y a un grand travail de théâtre et d'organisation de l'espace et sur les corps, sur les voix, sur l'enlaidissement systématique de soi. Il y a là quelque chose qui prend en effet le théâtre à rebrousse-poil pour mieux le magnifier, me semble-t-il. Enfin, voilà. Et puis j'aime bien ces histoires de lutins. On ne parle pas assez des lutins, des trolls, des génies de la forêt. Enfin, je trouve que c'est très bien qu'on imagine que dans les sous-sols du théâtre, enfin, et du cloître des Célestins, puisque c'est le décor reconstitué, s'agite une population merdeuse et méchante. Enfin, ça m'amuse assez, ça. Mmh. Et voilà. Et je trouve encore une fois ça au nom de l'art. Enfin, c'est une provocation, mais elle n'est pas tout à fait gratuite. Et peut-être c'est de ça qu'il faudrait parler et reparler encore. Enfin.
Alors, c'est au rond-point que vous vous produisez actuellement, et non pas à Beaubourg, où généralement Serge Laurent, qui est directeur là-bas de la programmation, je le disais, scène et scène de la scène, spectacle et musique, vous accueille généralement à bras ouverts. Vous en pensez quoi de ce recentrage dans le quartier du rond-point, Serge Laurent? Vous êtes jaloux?
Ah ben moi,
les petits vous échappent?
Oh, non, bah, ils m'échappent pas puisqu'ils m'appartiennent pas, donc ça, y a pas de souci. Mais je dirais que moi, je suis ravi de la même manière que je suis ravi que Sophie et Xavier soient à Avignon cette année. C'est normal, c'est-à-dire que on travaille ensemble depuis maintenant pas mal d'années. Parfois, moi, dans ma démarche, je peux me sentir un petit peu isolé parfois par rapport à certaines propositions que je peux faire dans les sous-sols du Centre Pompidou. Et puis tout à coup, voir que des lieux emblématiques comme le Rond-Point, comme le Festival d'Avignon, avec qui désormais, je dirais depuis pas mal d'années, pour ne pas citer ces deux directeurs, j'éprouve une réelle sympathie et je dirais même complicité artistique, je peux que me réjouir de ce qui se passe, c'est clair. Et puis tout à l'heure, Sophie parlait que c'était des spectacles qui pouvaient faire peur. Moi, je ne sais pas de quelle peur elle parle, puisque en fait, je dirais que ce que j'aime bien dans ce que font Sophie et Xavier, c'est que finalement, moi qui viens des arts plastiques, après du chant, de la danse et de la musique, c'est des gens en fait qui m'amènent au théâtre. C'est-à-dire que par le biais de leur approche, par le chant de la musique, de la scénographie, qui est une dimension extrêmement importante dans leur travail, en fait, le Zéreb, comme d'autres compagnies, m'ont amené au théâtre. Et j'aime beaucoup, en fait, leur approche du théâtre, comme vous le disiez, monsieur, qui questionne, en fait, le théâtre, qui le torture, qui le triture. Et si on n'analyse pas de façon, je dirais, profonde, cette démarche, on peut penser qu'ils s'en foutent du théâtre, comme les gens dont on disait qu'ils faisaient de la non-danse parce qu'ils n'aimaient pas la danse. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est au contraire une obsession du théâtre qui fait qu'ils peuvent se permettre autant de liberté.
Mais alors, est-ce que si des programmateurs comme Serge Laurent vous aiment parce que vous l'amenez au théâtre, ça n'est pas dû à l'arrivée dans l'équipe et à vos côtés, Sophie Pérez de Xavier Bouxiron, qui se définit lui-même comme, si je ne m'abuse, musicien analphabète, plasticien, dramaturge et un ton galeriste, Xavier Bouxiron. Qu'est-ce que vous avez, vous, amené justement à Sophie Pérez en la rejoignant de manière, souhaitons-le, pérenne à la direction de cette compagnie Zéreb.
Je lui ai... Enfin,
vous lui avez tout amené.
Quasi. C'est-à-dire que je lui ai amené une sorte de méthode pour qu'elle puisse utiliser son intelligence plutôt chaotique. Et maintenant, c'est pas vrai. Moi, je lui ai amené... la seule chose qu'on a amené, c'est qu'on avait, en ayant des origines vraiment très, très... très très éloigné, parce que c'est vrai que le théâtre, moi je venais plutôt de l'art contemporain et qui a une autre chapelle tout aussi ridicule, absurde, stupide, prétentieuse, raciste, sexiste. Enfin, l'art contemporain, c'est une horreur, quoi. Et le théâtre, c'est une horreur aussi, mais c'est que des systèmes de croyance, en fait. Et c'est vrai que nous, on a un rapport à la croyance, on avait ce point commun qui fait que on a vraiment envie d'y croire. Et puis on peut pas s'empêcher de questionner la croyance, on peut pas s'empêcher de se demander comment ça marche dans le moteur. Et en même temps, on n'est pas des très bons élèves, donc on peut pas être des artistes postmodernes extrêmement ciselés, je dirais. Là où on cisèle, c'est dans la capacité qu'on a de surmonter nos incapacités. Et on est très attentif à la forme, juste à la forme. Et c'est vrai que ça parle. Alors, en l'occurrence, là, on est dans le spectacle et les gens du théâtre se sentent visés, mais moi, je jetais des cailloux aux acteurs à Bordeaux, aux prétendants acteurs, parce qu'il y avait le conservatoire qui était à l'école des Beaux-Arts. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces bouffes-merdes, c'est raté, c'est vraiment des nasbrocs, et puis eux nous regardaient comme étant des conceptuels punk à chien. Enfin, donc ça crée...
Punk à chien ou punk à chien, c'est un néologisme que vous créez sur le moment-là.
Punk à chien.
Punk à chien. Xavier Bouxiron invente le mot.
Et j'ai toujours trouvé que cette ambiance de... Il est là, le partage. Il est il est dans la confrontation, il n'est pas dans la pluridisciplinarité où il y aura un pauvre gars qui sait servir d'une caméra vidéo, puis un autre qui essaye de monter un texte de théâtre, et puis ils ont l'impression de...
Le transversal.
Oui, moi je suis pas trop...
Pour vivre ensemble.
Voilà. Et donc l'histoire du bras dessous, il peut pas se faire sans les coups de coude dans les côtes, quoi.
Je trouve que cette parole est tout à fait édifiante, j'allais dire, sur la teneur du projet. Je trouve que vous l'expliquez très bien et que ça ne donne pas un sérieux supplémentaire que j'ai vu tout de suite dans le spectacle, moi. Parce que je pense que ces gens qui travaillent là, comme ça, sur la dérision extrême, doivent être des provocateurs organisés. Enfin, on ne peut pas improviser ça. Ça nécessite... je sais pas, c'est peut-être plus compliqué que de monter à Tali, il me semble. Enfin, franchement.
Ah oui. Hein,
parce qu'il faut préméditer chaque coup, puisque on doit être toujours là où on ne vous attend pas, et là où on s'attend soi-même. Il faut quand même qu'on invente chaque fois. Alors, c'est une des questions que pose votre pratique, me semble-t-il. Comment éviter la répétition et le ressassement sur le long terme dans des zones que vous explorez et dont il n'y a que peu de modèles, finalement? Vous ne pouvez pas vous inscrire en faux contre une lecture préalable, puisque vous inventez la chose. La question est, hasta cuando, jusqu'à quand pourrons-nous aller là?
Mon père me chantait ça.
Non, mais vraiment, je le pense vraiment.
Oui, mais
parce que je le prends très, très au sérieux, ce travail-là.
Moi, je vous ai souvent dit, d'ailleurs, Sophie Pérez, que j'ai le sentiment que quand on voit au spectacle, il faudrait pouvoir déplier chaque image, chaque seconde du spectacle pour réussir à faire le tour de ce que cette seconde et cette image contient. C'est-à-dire qu'il y a un travail de condensation terrible de concentrer de différentes références, de différentes énergies, de différentes intentions, qui fait qu'on voit un spectacle, mais en fait, on ressort avec à l'intérieur de soi, non pas un, mais sans doute 15 représentations ou 100 représentations, Sophie Pérez.
En fait, par exemple, là, pour Oncle Gourdin, là, je vais être assez pragmatique sur le travail, mais quand les lutins bricolent 10 minutes, pour nous, c'est des heures de répétition à bricoler. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas en heures que ça se compte, c'est des semaines de bricolage. Donc c'est vrai que chaque scène, c'est des choses qu'on manipule pendant des heures et des heures. Et après, l'écriture, c'est de savoir celle qui va durer 3 minutes, celle qui va durer 8 minutes. Et c'est vrai qu'il y a un côté cut de l'affaire, mais qui est longuissime pendant le travail, qui est à savoir celle qui doit être vraiment coupée, et ça donne cette sarabande infernale. Mais c'est vrai que le temps et les ébauches de chaque scène pourraient être un spectacle. On aurait pu faire du bricolage pendant une heure, on aurait pu faire Médée, Oedipe, on aurait pu creuser ça. Mais c'est vrai que chaque chose arrive, et après il faut s'en débarrasser. Et c'est vrai qu'on est autant dans les répétitions et dans le travail, on les creuse, et après on les réduit dans le temps, et et c'est une drôle de chose, ça, parce que certains disent mais pourquoi cette chose traîne pas, ou pourquoi il y a une sorte de, il y a la peur de la mort, je sais pas ce que c'est, mais tout doit être un moment déballé sur l'affaire qui nous concerne au moment de chaque spectacle. Donc là, il devait y avoir Oedipe, Médée, du bricolage, Jean Villard, et on savait que ces choses seraient là. Et après, on les manipule, on passe beaucoup de temps avec. Et après, c'est l'agencement de tout ça qui doit se faire d'une façon assez lapidaire.
Vous n'allez pas le croire. Personne ne le croira, personne ne l'a cru. Personne au monde. Il l'avait en partie dévoré.
Xavier Boussiron.
Tous, beaucoup, à part quand tu prends un texte, mais on est beaucoup maintenant à travailler sur l'écriture du plateau. Mais ce qui est intéressant, et chacun le fait à sa sauce, et puis ça, c'est vrai que moi, je suis toujours très attentif. Il n'y a jamais de personnage. C'est-à-dire qu'on travaille avec Stéphane Roger, avec Sophie Lenoir, avec Gilles Gaston-Dreyfus, avec Marlène Saldana, avec Françoise Klein. Et quand ils sont là, c'est pas des personnages. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette relation qui est hermétique, voire magique au sens le plus tragique du terme, qui est de l'ordre du moment où la représentation et l'aspect documentaire se montent dessus, se chevauchent, se contredisent, ne s'entendent pas, se fictionnalisent. Et je dirais que ça rejoint le bon côté des films de Godard, quelque part. Mais c'est quelque chose qui est en contrepartie obsédé par l'idée que l'intelligence est aussi appartient à un genre de série B. C'est-à-dire que l'intelligence n'est pas une rareté en soi.
Une catégorie d'art et d'essai.
Ouais. Exactement.
Soyons un peu concrets pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le travail de...
Pour moi, je suis désolé.
Sophie Pérez et Oncle Gourdin. Non, pas du tout. C'était pas en référence à ça. Je vais soumettre Jean-Pierre Leonardini, qui sait raconter des spectacles et qui sait les critiquer comme peu savent le faire, de livrer à l'auditeur une image qui lui paraîtrait la plus marquante ou la plus emblématique, en tout cas dans ce qu'il a vu. Quand vous avez vu Oncle Gourdin, Jean-Pierre Leonardini, si vous deviez garder une image, et Dieu sait qu'il y en a une profusion, qui permettrait à un auditeur de, voilà, peut-être de voir à travers la radio ce qu'il verra s'il va au Théâtre du Rond-Point.
C'est terrible, c'est le type qui scie un chien en deux, mais un chien en peluche. J'ai trouvé ça bouleversant de puérilité géniale. Enfin, sur une scène, ça m'a beaucoup plu. Mais ça renvoie à des images personnelles, à titre privé, que je ne saurais pas expliquer. D'emblée, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Pourtant, il y a mille autres choses. Je veux dire que les choses que je me rappelle, et que j'avais cité un écrivain, c'était... Il s'acharne sur un torse de King Kong albinos, un acrylique avec la bouche ouverte. Enfin, c'est des choses terribles. Puis ils cassent des assiettes en plastique, puis ils font des installations épouvantables d'enfant débile dans un bac à sable, enfin, il se les montre. Je trouve ça très fort et je, encore une fois, ce qui m'intéresse beaucoup dans le spectacle, c'est que le revers de ça, lorsque ça bascule, parce qu'il y a un basculement dans le spectacle, bien sûr, c'est quand on s'adresse à la sphère tragique après. C'est-à-dire que ce type de travail, le vôtre, ne peut avoir pour pendant ou comme antagonique que le tragique. Pas du comique ordinaire, pas de la comédie, puisqu'on est dans le registre du théâtre. Là, hein. On ne peut avoir affaire ensuite comme contraire absolu que Médée ou Oedipe. Et là, alors, je trouve aussi que c'est très beau. On en parle moins, parce que ce qui est beau au début, c'est le saccage. Enfin, moi, le saccage enfantin de ces adultes difformes me comble. J'en ai rêvé la nuit. Enfin, je me suis endormi en pensant à ça, en riant comme une espèce de cauchemar enfantin familier. C'est que les deux images, enfin, les trois images de tragique, enfin, Médée et Oedipe avec... comme ça, dans une espèce de signification baroque, très stylisée, très codée, c'est très beau. C'est très beau comme image tragique. Enfin, c'est beau comme peut l'être une image de théâtre no, de kabuki, avec quelque chose qui brille, une Médée solaire. Enfin, il y a là vraiment, à ce moment-là, une véritable réflexion sur le théâtre tragique, mais comme ça, au passage, pour faire voir qu'on sait le faire. Mais que ce qui nous plaît d'abord, c'est de casser la baraque.
Mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple, Sophie Pérez, à ceux qui peuvent dire, et qui l'ont écrit d'ailleurs pendant le Festival d'Avignon, qu'au fond, vous faites un théâtre qui ne s'adresse qu'à des théâtreux, que c'est un théâtre de l'entre-soi, que c'est un théâtre trop codé, que c'est un théâtre qui n'est pas ouvert, au fond
Non, mais c'est les théâtreux qui ont dit ça, en plus, donc c'est stupide.
Sophie Pérez.
Ah oui, puis en fait, on le voit d'une façon pragmatique quand on est en tournée en province. Les gens n'ont pas du tout les codes ou les références. Et comme il y a une chose très archaïque, et c'est, faut aussi parler des acteurs qui sont quand même des 4x4 oui. humains et qui sont des acteurs vraiment incroyables. Et ils donnent une chose qui est cette chose primaire du théâtre. Donc c'est vrai que quand on tourne en province, les gens le prennent comme du théâtre et comme une chose donnée et en nous disant on n'a pas tout compris mais c'était enfin voilà la chose qu'ils ont traversée émotionnellement et esthétiquement elle était très simple à prendre. En fait, c'est ceux qu'on la trouille au cul à qui ça pose des problèmes finalement.
En même temps, il y aurait un premier dans votre travail. On pourrait dire aussi qu'il y a un premier théâtre.
On n'aime pas notre travail.
On pourrait dire aussi qu'il y a un premier théâtre qui est ce entre guillemets ce show qu'on voit et qui aurait et ça Jean-Pierre Leonardini au fond n'a pas dit vraiment autre chose que ça qui aurait presque aussi un théâtre subliminal qui est glissé d'autres strates quoi enfin d'autres strates du théâtre qui sont sous ce premier théâtre il y en a une deuxième couche une troisième couche
mais par rapport à Sophie ce qu'il disait tout à l'heure c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait faire
et on sait les faire
super bien. Mieux que tous les autres. C'est-à-dire que demain, on peut monter un Beckett, demain, on peut faire un opéra. Le problème n'est pas là. Le problème n'est absolument pas dans la réussite d'une chose. Le problème, c'est de l'expérimenter, de la mener à sa catastrophe. Donc, et parce que c'est là qu'il y a de l'art et c'est là qu'il y a des problèmes. Donc, faire la chose, pour moi, est très, très simple. C'est-à-dire que je sais ce qui marche, je sais ce qui peut produire de l'émotion, je sais ce qui met du doute, je sais ce qui met de la tension. Mais après, une fois qu'on sait faire la chose... C'est plus du tout intéressant, cette chose-là. Donc, on la laisse à tous les autres, qui ne savent pas bien la faire, d'ailleurs. Mais en tout cas, faire la chose, c'est pas le problème. Le problème, c'est de la voir à distance, d'être lucide et d'en être terrorisé. Le problème, c'est d'être terrorisé par rapport à ces possibilités-là et de les mettre en branle et de les amener à une sorte de catastrophe. Mais bon, en même temps, on vieillit un peu, donc il va falloir qu'on.
Non, mais c'est ce qui fait.
On monte un Beckett.
C'est ce qui fait la différence.
Au théâtre de la Madeleine.
Ben voilà.
C'est ce qui fait la différence entre un metteur en scène et un artiste. C'est-à-dire que metteur en scène, c'est un métier, et puis artiste, c'est un état. Donc, il faut interroger cet état. Après, quand on a un métier, ça roule. Tu prends le texte de machin, de Popol, tu dis tiens, regarde, tu vas mettre une salopette, tu rentres à gauche, attention, tu te mets dans la lumière, parce que ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est des métiers qui sont à la portée de tout le monde. Mais quand on se met à savoir où on est, c'est un peu plus difficile.
Serge Laurent, est-ce que quand vous les programmez, les Pérez-Boussiron et toute la troupe, on a cité les acteurs tout à l'heure, vous avez le sentiment de prendre un risque encore qu'on on peut penser que le public de Beaubourg est un public, disons, ouvert. Mais
vous
est-ce qu'il est,
à... ce
il est... est-ce qu'il est arrivé que vous rencontriez dans le public une franche opposition, des réactions vives, enfin, des manifestations?
Bah, c'est assez rare parce que bon, moi, ça fait quand même maintenant 10 ans que je travaille au centre avec une ligne artistique assez, assez précise, quoi, assez, assez claire. Donc, je crois que le public qui se retrouve dans la programmation, il est là. Et puis, celui qui ne s'y retrouvait pas, eh bien, on le voit de moins en moins ou plus du tout. Mais la question, en fait, qui me semble vraiment importante par rapport à ce genre de spectacle, en effet, c'est celle du spectateur. Et moi, ce que j'apprécie, parce que je suis d'abord un spectateur, hein, c'est pas même si c'est mon métier, mais je regarde comme un spectateur. Et ce que j'apprécie dans ce genre de démarche, c'est que ça donne beaucoup de liberté en fait au spectateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier d'une narration qui doit vous mener d'un point A à un point B. C'est moi qui ne suis pas un spectateur assidu de théâtre, mais qui va au théâtre. En fait, ça a toujours été un petit peu ma difficulté. Et là, tout à coup, avec certaines compagnies comme celle du Zérep, je me dis waouh, je suis finalement à quelque chose de très incarné, mais qui finalement touche un peu à une abstraction qui me donne une liberté de construction personnelle extrêmement vivifiante, quoi.
Mais est-ce que la liberté justement laissée au spectateur, elle n'est pas dans ce hiatus que vous créez constamment dans les oppositions que vous prolongez sur le plateau? Il y a le trivial, le sublime, il y a le beau, le laid, il y a le charnu. Moi, j'ai envie de parler de spectacle charnu aussi, et sans doute aussi le conceptuel, parce que le conceptuel y est aussi. Il y a le présent et il y a tout le temps quand même le passé, parce que vous avez beaucoup beaucoup de références, et on l'entend dans ce que vous dites. Est-ce que cette aération, cet oxygène du spectateur, elle ne vient pas de ça, de cet espace que vous laissez entre ces contraires que vous manipulez sur le plateau? Xavier Boussiron, Sophie Pérez.
Si, mais c'est là le point un peu manifeste de ce qu'on fabrique, c'est-à-dire que quand Nietzsche parlait de la philosophie qui disait « embarquez-vous », je pense que le rapport à l'art ne peut pas être autrement. Si on n'y est pas plongé jusqu'aux narines, ça ne sert à rien. Et le spectateur, alors quand je parle du spectateur, c'est pas l'histoire du regardeur de Duchamp. C'est-à-dire que l'arrangement fait que il faut, et le terme est juste, il faut que ce soit vivifiant. C'est-à-dire que le spectateur n'est pas là pour donner du sens, mais il est là pour qu'il participe aux questions, fondamentalement. Et la place qui lui est donnée est très périlleuse pour nous, parce que on sait bien que le spectateur, généralement, il lui faut le plateau repas. Si dans la formule il y a marqué couscous, on peut pas lui amener un bourguignon. Et c'est vrai que peut-être que le contraire du couscous c'est le bourguignon. Et nous on est souvent dans le renversement de la forme, c'est-à-dire que il y a à la fois la forme qui est montrée, il y a le refoulé de cette forme-là.
Sophie Pérez, quand elle parle de ce théâtre et de ce qu'est le théâtre pour elle, Jean-Pierre Leonardini, elle dit que c'est le cri de Munch sur des talons aiguilles. C'est une formule assez géniale. On parle de la place du spectateur. Et alors le critique, lui, quand il est face à un spectacle comme ça, comment est-ce qu'il écrit et de quelle manière? Vous avez écrit très vite après avant du spectacle.
Le critique par formation, enfin, c'est un humaniste classique. Enfin, il a têté tout ce qui est classique, tout ce qui est académique. Il en a fait le tour. Enfin, et justement, s'il est assez rompu à cet exercice-là de la réflexion sur la tradition, fut-elle la plus moderne, enfin, hein, ça peut passer par Meyerhold, enfin, ou d'autres. Il doit être en alerte là-devant, puisque justement, ça, c'est comme une secousse sismique, enfin. Ça secoue, c'est plein de soubresauts. Et il voit très bien que ça travaille sur l'objet qu'il étudie tout le temps lui-même, dont il est le spectateur assermenté, assidu et perpétuel. Et c'est là que ça l'émeut, enfin, me semble-t-il que ça doit l'émouvoir. L'émouvoir. Le prendre, le saisir et le retourner comme un gant. C'est ce qui s'est passé pour moi. Après, je pourrais chipoter, je pourrais dire oui à une baisse de rythme à tel moment et tout. Ça m'est égal. L'enjeu n'est pas là. L'objet est dans ce que ça produit à partir d'un corpus de savoir archaïque, puisque le théâtre, justement, travaille sur l'archaïque, enfin, et avec des choses adjacentes qui viennent d'ailleurs, enfin, qui viennent en effet, pourquoi pas, des talons aiguilles, qui viennent de la soupe tragique. C'est ça qui est bien. Et je pense que c'est bien parce que ça parle pas, les outils, le matériau est composite. Il ne passe pas uniquement par la mémoire du théâtre. Il prend à droite et à gauche. Il y a un effet de montage et de collage, et c'est là que c'est vraiment intéressant et que c'est moderne. Je dis pas post-moderne, c'est moderne. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui me plaît. Voilà. Je n'en dirai pas plus.
Je pense qu'on ne peut piétiner que ce qu'on aime.
Conclut Sophie Pérez. Oncle Gourdin, conception et mise en scène, Sophie Pérez et Xavier Boussiron. C'est au Théâtre du Rond-Point du 8 septembre au 8 octobre. Ça sera en mars 2012 au Nouveau Théâtre d'Angers. Dimanche prochain à 23h, Michel Vinaver sera dans Changement de décor en direct avec Robert Cantarella. Merci à l'équipe, Anne de Biron, assistante d'émission, à la technique ce soir, Alain Joubert, Françoise Camard, à la réalisation et Joël Gaillot, à la production, qui vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de France Culture.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 septembre 2011.